Radio Vatican, Français Afrique.
Bienvenue à mes auditeurs et merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. L'audience générale du pape sera le premier point de l'actualité de l'Église avant de nous rendre au Bénin, au Congo, Congo-Brazzaville, au Togo. Nous verrons ensuite, dans le cadre de l'actualité sociopolitique africaine, ce qui se passe en Guinée, en Tanzanie, en Algérie. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Au cours de l'audience générale qu'il a tenue mercredi matin dans la salle Paul Suss, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière, abordant cette fois-ci la première prière de Jésus sur les bords du Jourdain lors de son baptême par Jean-Baptiste. Le début de la mission publique de Jésus, a fait remarquer François, a lieu avec le baptême dans le fleuve Jourdain. Les évangélistes sont d'accord pour attribuer une importance fondamentale à cet épisode. Ils racontent que tout le peuple s'était recueilli en prière et ils spécifient que ces rassemblements avaient clairement un caractère pénitentiel. Le premier acte public de Jésus a poursuivi l'évêque de Rome et donc la participation à une prière chorale du peuple, une prière pénitentielle où tous se reconnaissent pécheurs. C'est pourquoi Jean-Baptiste voudrait s'opposer et dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi ». L'insistance de Jésus à noter le pape est un acte qui obéit à la volonté du Père, un acte de solidarité avec notre condition humaine. Il prie avec les pécheurs du peuple de Dieu. Il ne reste pas sur la rive opposée du fleuve pour marquer sa différence et sa distance du peuple désobéissant, mais il plonge ses pieds dans les mêmes eaux de purification.
Gesù non è un Dio lontano e non può esserlo. L'incarnazione lo ha rivelato in modo compiuto e umanamente impensabile.
Jésus n'est pas un Dieu lointain et il ne peut pas l'être. L'incarnation l'a révélé de manière accomplie et humainement impensable. Ainsi, en inaugurant sa mission, Jésus se met à la tête d'un peuple de pénitents, comme s'il se chargeait d'ouvrir une brèche à travers laquelle nous tous, après lui, nous devons avoir le courage de passer. L'évangéliste met en évidence le climat de prière dans lequel le baptême de Jésus se déroule. C'est en priant que Jésus ouvre la porte des cieux, que descend l'Esprit Saint et que le Père déclare qu'il est le Fils bien-aimé. Cette prière de Jésus, qui à ce moment lui est personnelle, a souligné l'évêque de Rome, deviendra par la grâce la prière de tous les baptisés dans le Christ. Ainsi, dans les moments sombres de la vie, nous devons supplier pour que la prière de Jésus devienne aussi la nôtre. Nous entendrons alors une voix du ciel nous dire avec tendresse « Tu es aimé de Dieu, tu es fils du Père et tu es sa joie ». Le Saint-Père a conclu sa catéchèse, faisant remarquer que le Christ n'était pas descendu dans les eaux du Jourdain pour lui-même, mais pour nous tous. Il a ouvert les cieux comme Moïse avait ouvert les eaux de la mer Rouge pour que nous puissions tous passer derrière lui. Et comme d'habitude, le pape a salué les différents groupes linguistiques et aux pèlerins francophones, il a dit.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese.
Je salue cordialement les personnes de langue française. Jésus nous offre sa prière et son dialogue d'amour avec le Père. Puissions-nous la faire nôtre, surtout dans les moments difficiles, afin de les traverser dans la foi avec le secours de sa tendresse. Que Dieu vous bénisse.
Con l'aiuto della sua tenerezza, Dio vi benedica.
À la fin de son audience, le pape a lancé un appel de solidarité et de soutien aux familles de jeunes étudiants tués samedi dernier à Kumba au Cameroun. Cet acte si cruel et insensé qui a arraché des enfants innocents à la vie alors qu'ils suivaient les leçons à l'école mais déconcerte totalement, a indiqué le pape. Prions le Seigneur pour qu'il illumine les cœurs, pour que des gestes semblables ne soient plus jamais répétés et pour que les régions martyrisées du Cameroun puissent finalement retrouver la paix. Le Saint-Père a également formulé son souhait pour que les armes se taisent et que puisse être garantie la sécurité de tous et le droit de chaque jeune à l'éducation et à l'avenir. Il a enfin exprimé son affection aux familles, à la ville de Kumba et à tout le Cameroun, invoquant le réconfort que Dieu seul seul peut donner. Bien avant l'audience générale, le pape avait procédé à l'imposition du pallium à sa béatitude Pierre-Baptiste Pisabala, patriarche de Jérusalem des Latins. Notre correspondant au Bénin nous rend maintenant compte de la visite des évêques au petit séminaire Saint-Pierre de Natitingou.
En marge de leur première session plénière ordinaire de l'année pastorale 2020-2021 qui s'est déroulée du 18 au 21 octobre 2020 dans le diocèse de Natitingou, les évêques du Bénin ont rendu ce 21 octobre aux enfants du petit séminaire Saint-Pierre de Natitingou une visite marquée par une messe d'action de grâce présidée par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Rumbedi. Une occasion saisie par le recteur du séminaire, le père Modeste Glélé, pour donner à ses hôtes une vue panoramique de l'institution qu'il dirige. L'homélie de Monseigneur Rumbedi a été une véritable catéchèse sur quelques fondamentaux de la formation d'un futur prêtre.
Nous avons été appelés pour annoncer l'évangile. Et vous vous préparez conséquemment à accomplir cette mission quand vous serez pasteur dans l'église, quand vous serez prêtre. D'où la nécessité pour vous de vous atteler à cette tâche que le Seigneur vous a confiée dès maintenant.
Porte-parole des enfants n'a pu alors cacher leur joie de vivre un événement aussi émouvant et inédit de la part du Seigneur.
De nos yeux de chair, nous voyons les évêques de la conférence épiscopale de notre pays, le Bénin. Mais nous voudrions que vous partiez avec un modeste souvenir de notre maison. C'est un tableau d'art qui porte l'image de Saint-Pierre, apôtre et saint patron de notre maison. Notre souhait est qu'il soit gravé dans un coin du ciel de la conférence épiscopale du Bénin. Il vous rappellera le souvenir de ce jour et vous soufflera régulièrement à l'oreille et au cœur. Dès que possible, visitez mes enfants à Natitingou.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Parlons à présent de la déclaration des évêques togolais à l'issue de leur session ordinaire. Reportage.
Entre autres déclarations rendues publiques vendredi 23 octobre à l'issue de leur session ordinaire tenue à Accra du 19 au 23 octobre 2020, les évêques du Togo ont exhorté les autorités du pays à autoriser l'ouverture totale des lieux de culte. Convaincus qu'il nous faut désormais vivre pendant un certain temps avec la COVID-19, et au regard de la reprise progressive des activités dans tous les secteurs de la vie sociale, notamment les écoles, les services, les marchés, les lieux d'accueil et de restauration, ont affirmé les évêques du Togo, nous jugeons opportun que toutes les églises et autres lieux de culte soient eux aussi ouverts aux fidèles, dans le respect des dispositions de prévention. À cette déclaration, les évêques ont ajouté qu'ils espèrent que cette préoccupation sera prise en compte par ceux à qui cela revient. Quant à la situation sociopolitique du pays, les évêques du Togo ont rappelé que la paix sociale, la justice, la démocratie, l'alternance tant souhaitées pour notre pays ne seront effectives que si chacun de nous accueille l'appel de Dieu à la conversion et s'engage résolument au service du bien commun, de la vérité et du droit. Et pour implorer cette grâce, ils invitent tous les fidèles à observer un triduum de jeûne et de prière les 28, 29 et 30 octobre 2020. Gustave Wam, Dapon pour Radio Vatican.
Bouclons l'actualité de l'Église avec la célébration des 80 ans du manifeste de Brazzaville en République du Congo le lundi 26 octobre dernier. La messe du lancement de ces festivités a eu lieu dans la basilique Sainte-Anne du Congo et a été présidée par Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, et concélébrée par plusieurs évêques congolais et aussi deux cardinaux venus de l'autre Congo voisin, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, et son prédécesseur, le cardinal Laurent Monsengo. Dans son homélie, Monseigneur Victor Abanyamosa, archevêque de Wando, a notamment indiqué que cette célébration prouve à suffisance la volonté de Brazzaville et de montrer que le souffle de la liberté partie d'Afrique est un bien universel. On l'écoute.
Célébrer les 80 ans de la déclaration de Brazzaville, capitale de la France libre, consiste à rappeler la place exceptionnelle que la capitale du Congo a tenue au moment où la France menaçait dans son existence s'est unie pour sa liberté. Cela se résume aussi à la volonté de Brazzaville de montrer que le souffle de la liberté parti d'Afrique est un bien universel. Souvenons-nous de cette autre parole que nous avons entendue. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de lumière. Depuis les années 60, nous avons acquis nos indépendances. Est-ce seulement pour avoir participé à la guerre? Le soldat blanc ou noir avait connu la même souffrance, le même espoir de liberté. Saint Paul pense, en écrivant cette parole, à notre vie morale. Je pense que nous pouvons dire la même chose, nous qui sommes sortis de la colonisation.
Monseigneur Victor Abanyamosa, archevêque de Wando en République du Congo, Congo-Brazzaville.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'opposant guinéen Sélou Dalein Diallo a indiqué mercredi que les forces de sécurité qui ont empêché l'accès à son domicile de Conakry avaient levé leur barrage au moment où l'armée a commencé à se retirer des quartiers favorables à l'opposition 10 jours après une élection présidentielle aux résultats controversés. Tundu Lissou, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle en Tanzanie et principal rival du président sortant John Magufuli, a dénoncé mercredi des irrégularités qu'il qualifie de grande ampleur, menaçant selon lui l'intégrité du scrutin en cours. Les Tanzaniens ont voté mercredi pour élire leur président et député et 15 candidats s'affrontent pour la présidentielle. La campagne en vue du référendum sur la révision de la Constitution en Algérie s'est achevée mercredi sans avoir suscité l'engouement des Algériens durant ces 3 dernières semaines. Près de 25 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer dimanche sur une révision constitutionnelle censée fonder une nouvelle république et répondre ainsi aux aspirations du mouvement de protestation populaire Chirac. La présidence sud-africaine a annoncé mercredi que le chef de l'État Cyril Ramaphosa s'est placé en quarantaine après avoir appris qu'un convive à un dîner de charité auquel il participait a été testé positif au coronavirus. Selon son bureau, le président Ramaphosa avait assisté samedi à un dîner pour lever des fonds à la fondation Adopt a School et l'un des participants a été testé positif au coronavirus mardi.
Radio Vatican, Français-Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Direction République démocratique du Congo, quelques 24 personnes ont comparu mardi à la première audience du procès pour meurtre des frères jumeaux, deux rappeurs locaux brûlés vifs fin juillet à Kinzamvwete, une localité de la province du Congo central. Le Conseil de sécurité de l'ONU a entériné mardi l'accord de cessez-le-feu conclu le 23 octobre entre les parties libyennes, les appelant à l'appliquer intégralement dans une déclaration qui devrait être suivie prochainement par l'adoption d'une résolution. Au Maroc, le procureur du roi à Rabat a annoncé mardi soir qu'un gardien de prison avait été séquestré puis tué par un détenu récemment incarcéré pour son appartenance à une cellule terroriste. Le djihadiste mauritanien Fawaz Ould Ahmed, dit Ibrahim Diss, a revendiqué mercredi haut et fort être l'auteur de l'attentat qui a fait 5 morts au bar-restaurant La Terrasse en 2015 à Bamako. Nous sommes au Mali, se disant fier d'avoir agi par vengeance après la publication des caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo en France.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine est consacré aux organisations internationales et à la solidarité.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Pour notre magazine, nous accordons la parole au couple Hélène et Arnold Viard, volontaires de l'ONG Organisation catholique de solidarité internationale Fidesco, qui travaillent tous les deux à l'école secondaire jésuite appelée Collège Mwapusukeni dans la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. On les écoute.
Nous avons été envoyés en mission pour 2 ans par notre ONG Fidesco, par laquelle nous avons souhaité nous engager en tant que missionnaires pour aider la communauté des jésuites Je suis coordinateur des ateliers techniques au collège Moipoussoukeni.
Nous allons peut-être revenir sur les activités que vous faites. Fidesco, l'ONG catholique pour le compte duquel vous travaillez. Quel en est le but ?
Le but de Fidesco, c'est d'aider les différentes communautés à travers le monde qui sont dans le besoin et qui font appel à Fidesco pour leur envoyer des missionnaires. La charge de Fidesco est de trouver donc des personnes correspondantes aux différentes missions. À RD Congo, justement, il y a deux missions, toutes deux à Lubumbashi. La nôtre, chez les jésuites, et une autre à Bakanja pour la communauté salésienne.
En quoi elle consiste, cette mission ?
Alors la nôtre, comme je l'ai précisé juste avant, au collège technique Moipoussoukeni, qui est dirigé par une communauté jésuite, où moi je gère donc les ateliers techniques, donc l'approvisionnement, la vente de différents matériels qui est ouvert au public, en fait, au public extérieur.
Quels sont les défis auxquels vous faites face, ou même les difficultés ?
Alors le défi, c'est plutôt d'arriver à maîtriser l'équipe, qui n'est pas forcément la même manière de maîtriser, on va dire, une équipe européenne. Donc c'est se mettre dans la peau de chacun ici, trouver le rythme, le bon rythme, pour pouvoir faire avancer tout le monde. Et après, un deuxième défi, c'est surtout côté matériel, c'est de trouver le matériel qui correspond à notre besoin et à quantité. Donc le défi est toujours de trouver le bon matériel au bon moment et au bon prix.
Et si c'était à refaire ? Fidesco à Lubumbashi, ça vous tenterait de prévenir ?
Sans hésiter, oui. Chez nous, c'est le métro, boulot, dodo. Comme on dit, est-ce que c'est vraiment ça la vie ? Donc ici, on apprend mille fois plus à se donner pour les autres. Je vous assure que servir les autres, ça procure un bien-être indescriptible. Donc j'invite toute personne qui nous entend et qui veulent vivre une aventure extraordinaire à contacter Fidesco en quelques clics sur fidesco.fr.
Monsieur Arnold, vous n'êtes pas seul dans cette mission. Votre épouse Hélène et vos deux enfants vous accompagnent. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Hélène. Quelles sont vos impressions après avoir séjourné une année entière à Lubumbashi?
Une année extrêmement riche sur tous les plans. En fait, on a essayé de comprendre et d'apprendre un nouveau mode de vie, essayer de se fondre dans une culture qui est extrêmement loin de la nôtre. En fait, ici, au Congo, la vie, elle est difficile et la population travaille dur pour gagner parfois quelques francs pour pouvoir nourrir leur famille et encore plus dans cette période de Covid. Ça a été extrêmement frappant. Les Congolais ici s'adaptent au jour le jour et donc c'est pas évident pour nous, des Occidentaux, d'arriver dans un pays comme ça, dépourvu de tout notre confort. Et eux, ils ont une façon de s'adapter extraordinaire et en fait, malgré toutes les difficultés qu'ils vivent, la joie se lit sur leur visage. Et ça, pour nous, ça a été incroyable. Le matin, je m'en vais travailler à pied au collège. J'entends des gens qui chantent dans la rue. Quand je pars en voiture, je croise des gens. C'est toujours « bonjour madame ». C'est incroyable.
C'est quelque chose que vous n'avez pas dans la société occidentale et que vous souhaiteriez exporter.
Mais bien sûr. Mais cette joie de vivre, alors que nous, occidentaux, on a tout. Mais en sens, les gens, ils sont malheureux. D'avoir tout, c'est pas la clé du bonheur. Parce qu'ici, ils n'ont pratiquement rien. Et quelquefois, je pose la question, est-ce que vous allez bien ? Ils me disent, je vais un peu bien. Ils ne me disent pas qu'ils vont mal, ils ne se plaignent pas. Jamais ils se plaignent. Et ils sont extrêmement généreux. C'est incroyable. Alors, ici, on est venu en mission pour chercher la joie. Parce qu'on en a tellement entendu parler par les différentes personnes qui ont exposé ce qu'ils ont vécu dans des missions pareilles. Et je vous assure que nous, on l'a trouvé, mais à profusion. Et c'est extraordinaire.
Au regard de ce que vous vivez au quotidien, ici en République démocratique du Congo à Lubumbashi, c'est quoi un appel que vous souhaiteriez lancer à toutes les personnes qui vous suivent ?
République démocratique du Congo plus précisément a vraiment besoin des pays développés, une aide financière ou matérielle. Les besoins sont nombreux ici, comme par exemple je pense aux écoles techniques parce que c'est là où on travaille à Moipoussoukeni. Ils ont besoin du matériel pour pouvoir aider les enfants à travailler dans des bonnes conditions. Donc le collège Moipoussoukeni, c'est un collège technique mixte qui forme des élèves en mécanique auto, construction métallique et électronique industrielle. En fait, ces élèves, c'est l'avenir du Congo. Et il est impératif de les former dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent faire avancer ce pays qui est bourré de capacités. Donc on parlait des capacités techniques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'agriculture, le tourisme et plein d'autres. Il y a autre chose aussi. Je pense aussi à la population qui vit dans des conditions très difficiles. La plupart n'ont pas forcément accès à l'eau ou à l'électricité. Pour moi, la solution, ça serait d'installer des énergies renouvelables. L'électricité, donc, on n'en a pas quasi tous les jours. Et dans des villages, il n'y en a même pas. Alors que le soleil, ici, c'est d'une richesse. Il y en a toute l'année, pratiquement. Et l'accès aussi à l'eau potable, c'est aussi très compliqué. Alors qu'on peut creuser des forages, mais tout ça, c'est des installations qui coûtent cher. C'est un peu révoltant. Et avec toutes les nouvelles technologies qu'on a, Ici, l'Afrique, elle est un peu délaissée. On voudrait alerter toutes les personnes en disant « aidez-nous, aidez tous ces gens à avoir un travail parce qu'ils sont bourrés de diplômes ». Les enfants étudient très longtemps. Alors, je voudrais aussi finir par rapport à ce que je disais pour les énergies. Si vous souhaitez aussi aider le collège Mwapusukeni, vous ne savez pas comment faire, moi je vous invite à consulter le site internet Mwapusukeni. C'est mwapusukeni.net. Et là, n'hésitez pas, vous pouvez poser une question ou même faire un don. Il n'y a aucun souci, ça serait la bienvenue. Alors, vous qui nous écoutez, auditeurs, vous avez du temps. Vous êtes étudiant, vous êtes une famille ou même retraité et vous avez 6 mois du temps, 6 mois, 1 an ou 2 ans et vous avez envie de vivre une aventure hors du commun. Surtout n'hésitez pas, sautez le pas et devenez missionnaire. On a tant besoin de personnes comme vous. Il n'y a pas qu'ici en Afrique, il y a des besoins mais dans le monde entier. Alors foncez, consultez le site fidesco.fr et en un clic, postulez. En mission, vous recevrez 1000 fois plus que ce que vous donnez et ça, je vous le garantis.
Couple Hélène et Arnold Viard, des volontaires de l'ONG Organisation catholique de solidarité internationale Fidesco, qui travaillent pour le moment au collège Mwapusukeni des Jésuites à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Place maintenant à Françoise Niamien pour la rubrique consacrée à l'éducation.
Commençons notre rubrique sur l'éducation par le Sénégal avec l'atelier de préparation de la rentrée des classes qui a eu lieu le lundi 26 octobre à Sali Portudal sous l'égide du Haut Conseil du Dialogue Social en relation avec le ministère de l'Éducation nationale et ses différentes directions, les syndicats d'enseignants et des membres de la société civile. À cette occasion, le ministre Mamadou Tala a rappelé les 11 directives du Conseil présidentiel relatives aux conclusions des assises de l'éducation et de la formation pour une école pour tous, une école de qualité et une école viable, stable et pacifiée. Au nombre des 5 priorités retenues pour le quinquennat, selon le ministre de l'Éducation nationale, l'apaisement du climat social demeure la principale car conditionnant toutes les autres. Par conséquent, soutient-il, aucune pédagogie, aucune réforme, aucun effort ni investissement ne peut être rentable si l'espace scolaire n'est pas apaisé. Monsieur Tala estime que le dialogue social est une nécessité, mais aussi un moyen et une stratégie managériale de gestion et demeure pour le Sénégal un cadre institutionnel de gouvernance. Il exige une implication de tous et à tous les niveaux. Sa durabilité et son efficacité demandent une reconnaissance et l'acceptation des rôles et des responsabilités de chaque partie, a notamment indiqué le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, Mamadou Tala. En République du Congo, Congo-Brazzaville, ce sont 800 jeunes qui viennent de bénéficier d'un séminaire de formation gratuit sur l'installation et la maintenance des panneaux solaires photovoltaïques, et cela après 3 semaines de cours théoriques. Cette formation s'est déroulée sous la supervision du président directeur général de la société MAC Service BDS, Moïse Devalon Ndende, l'initiateur de la dite formation dédiée à 12 000 jeunes Congolais de tous les départements du pays. Cette phase pratique du séminaire qui a démarré le 23 octobre et durera 1 semaine est l'avant-dernière étape de la formation avant les évaluations qui permettront de primer les meilleurs. L'ambassade du Japon au Burkina Faso entend soutenir les activités de l'association Burkina Tuinga. La cérémonie de signature de contrat et de don a eu lieu le 26 octobre dernier à Ouagadougou, la capitale burkinabé, d'une valeur de 49 700 000 francs CFA, environ 80 000 dollars américains. Le don va servir aux travaux d'extension du collège d'enseignement général de Ougou dans la région du plateau central. À la rentrée prochaine, ce sont 200 nouveaux élèves qui sont attendus. C'est au regard de ce constat que l'ambassade du Japon s'est engagée d'accompagner le projet d'augmenter les capacités d'accueil du collège d'enseignement général avec un bâtiment de 4 salles de cours équipées. direction Cameroun, pour parler de l'Assemblée générale annuelle de l'Association des anciens élèves du lycée de Niobel, l'ALINEB. Cette rencontre s'est tenue le 24 octobre dernier à Douala et l'ordre du jour de cette rencontre a porté sur la révision des statuts de l'association qui a pour principaux objectifs de prôner une solidarité agissante et contribuer au développement du lycée de Niobel. Pour la présidente Adeline Nouy, l'ALINEB est le lieu de rencontre des anciens camarades de ce lycée. L'objectif de notre association, c'est de promouvoir la solidarité. Beaucoup d'entre nous ont passé 30 ans sans se voir. Nous avons donc voulu nous retrouver pour promouvoir la solidarité et le vivre ensemble. En outre, a-t-elle indiqué, nous voulons apporter quelque chose à ce lycée et qui nous a tant donné. L'association qui a tout juste un an enregistre déjà un bilan élogieux. Elle a apporté son appui au lycée dans le cadre de la lutte anti-Covid-19. Les membres de l'ALINEB ont notamment offert des cache-nez du gel hydroalcoolique. Le lycée de Niobel a également bénéficié de la construction d'un point d'eau financé par ses anciens élèves, a fait savoir Adeline Nouy. Au-delà des actions spécifiques en direction du lycée, l'ALINEB œuvre également pour la solidarité entre ses membres, ce qui permettra de resserrer les liens. Nous étions bien ensemble sur les bancs du lycée, ça doit se poursuivre de nos jours, a fait savoir la présidente de l'association. Les membres de l'association du lycée de Niobel comptent cependant évoluer à un rythme modéré jusqu'à la maturité du groupe. La modification des statuts lors de cette assemblée générale a permis de jeter les jalons des actions futures de l'association.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Jean-Pierre Bodjoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même fréquence, même radio.
Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi. Seigneur, accueille-moi.